Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant. Voici le journal de Sébastien Logeny. Bonjour Sébastien.
Bonjour Marc, bonjour à tous. À la une ce matin, Cuba qui s'apprête à changer de visage. Le nom du nouveau président sera validé aujourd'hui par l'Assemblée nationale et pour la première fois depuis 60 ans, il ne portera pas le nom de Castro, le portrait du prochain leader de la Havane dans un instant. Les cheminots au bord de la rupture avec le gouvernement. Hier, l'exécutif a annoncé la fin du statut de cheminot pour les nouvelles recrues en janvier 2020. Les syndicats, dans ces conditions, hésite à poursuivre les consultations. Sa parole est rare, elle revient avec un livre. Aujourd'hui, Marc, l'invité du grand entretien à 8h20 s'appelle Christiane Taubira.
Oui, ancienne garde des Sceaux et voix qui porte toujours aujourd'hui à gauche. Elle publie un essai sur la littérature, mais on verra si la page politique est vraiment tournée. On verra ce qu'elle pense aussi de la première année au pouvoir d'Emmanuel Macron. Et puis, on attend vos questions au standard de France Inter 01 45 24 7000.
Au menu également dans ce journal, les nouveaux paramètres de confidentialité de Facebook, de nouveaux éléments dans l'attentat déjoué de Villejuif en 2015, l'ogre parisien face aux humbles vendéens, PSG Les Herbiers, ce sera l'affiche de la finale de la Coupe de France, et une exposition au Louvre-Lens qui nous plonge dans l'Iran du 19e siècle, à l'époque fascinée par l'Occident. Castro, c'est fini, en tout cas en apparence. Le pays va vivre aujourd'hui une transition historique, la fin d'un pouvoir qui aura duré 60 ans. Raoul, le frère de Fidel, va céder la présidence officiellement lors d'un vote des députés cet après-midi, mais il restera à la tête du Parti communiste cubain. Le nouveau visage du pays sera donc sous contrôle. Il s'appelle Miguel Díaz-Canel, 57 ans, un apparatchik, mais que le pouvoir cubain aimerait bien faire passer pour un réformateur. Son portrait avec notre envoyé spécial sur place, Olivier Poujade.
Il n'est pas militaire et portait même les cheveux longs. Se déplaçait à vélo en écoutant les Beatles pour son premier poste de responsable politique comme secrétaire général du parti dans la ville de Santa Clara. C'est de cette manière que les responsables cubains souhaitent que l'on parle de Miguel Díaz-Canel, l'homme de la modernité, celui qui a autorisé la création du Merunje, le premier cabaret homosexuel de l'île. C'était en 1995, souligne Johanna Silena, spécialiste cubaine en politique sociale.
À cette époque, dans les années 90, c'est vrai que c'était avant-gardiste. Ça reste une référence, même si 20 ans ont passé et que c'est la seule et unique initiative qu'il ait eue et qu'il a autorisée. C'est vrai que ça laisse de l'espoir.
Miguel Díaz-Canel peut aussi se montrer très ferme lorsqu'il évoque l'accueil par des musiciens cubains d'un paquebot de touristes américains dans le port de la Havane.
On aurait dit des Hawaïens. T'as jamais vu à Hawaï quand ils mettent des fleurs et des danseuses parce que les Américains arrivent? Ici, on ne fait pas ça. Qu'ils arrivent, qu'ils repartent en paquebot, qu'ils se mélangent à notre peuple et basta. On n'a pas à les accueillir avec un orchestre et tout le reste. Ça, c'est du colonialisme, de la soumission. Il faut s'en affranchir.
Des paroles prononcées devant les membres du Parti communiste il y a quelques mois et qui laissent le champ d'action politique du futur leader cubain très ouvert.
Olivier Poujade, envoyé spécial de France Inter à Cuba. 8h03 en France, le mouvement à la SNCF va-t-il se durcir?
Alors que le quatrième épisode de la grève mobilise moins les cheminots, les syndicats, eux, sont vent debout contre l'exécutif. Le gouvernement a décrété hier la fin de l'embauche des cheminots au statut en janvier 2020. Un marché de dupes pour la CGT, une provocation de plus pour les autres syndicats, même les plus modérés, au point que ces syndicats justement envisagent de rompre les discussions en cours avec la ministre des Transports, Maxime Debs.
À quoi bon continuer à venir discuter au ministère puisque tout est écrit? Hier soir, l'UNSA y est allé par politesse, au moins pour avoir l'explication de texte, mais pas sûr que son représentant, Roger Dillensinger, remette les pieds dans le bureau d'Elisabeth Borne. Alors qu'il reste une poignée de réunions de prévues avec la ministre, le deuxième syndicat à la SNCF menace de claquer la porte. Après la provocation du fret en début de semaine, le coup du statut non reconduit dès 2020 a été le coup de trop porté aux cheminots. Les syndicats espéraient un geste de ce côté-là, au minimum un léger sursis de quelques années. Mais même ça, ils ne l'ont pas consenti. Alors maintenant, que reste-t-il à discuter? Des miettes, déplore un délégué syndical. Les pressions des syndicats restaient vaines, le gouvernement continuant à avancer sans s'en soucier. Certains commencent même à se demander comment demain ils pourraient sortir du conflit sans perdre la face. À la CFDT, on évoque à demi-mot la possibilité d'aller au-delà du calendrier de grève prévu, de déborder sur les vacances d'été. Pas vraiment, même pas du tout le genre de la maison. Mais si c'est comme ça, que le gouvernement ne s'interdit rien, alors nous non plus.
Maxime Deps du service économique de France Inter. Et puis côté trafic, pas de grand changement aujourd'hui par rapport à hier. Un TGV sur 3 assis, ainsi que 2 TER et Transilien sur 5. Les cheminots seront par ailleurs dans la rue aujourd'hui aux côtés d'autres professions, fonctionnaires, électriciens, dockers, postiers, éboueurs. La CGT appelle à la convergence des luttes et prévoit 130 cortèges à travers tout le pays. Mais un appel loin de faire l'unité syndicale, seule solidaire se joindra au cortège. Les autres centrales refuse d'y aller. Des étudiants, en revanche, viendront sans doute grossir les rangs des manifestants. Le mouvement de blocage des universités s'enracine, avec 4 universités encore barricadées. À Montpellier, la justice a ordonné l'évacuation des locaux. À Avignon, le président de l'université, lui, applique le principe de précaution. Il a décidé de fermer le campus pour 2 jours, afin, selon lui, d'éviter une occupation par des étudiants grévistes. La vie numérique des 34 millions de Français va changer cette semaine. Facebook va modifier ce qu'on appelle les paramètres de confidentialité, ce qui permet en gros de filtrer plus ou moins ce que vous souhaitez ou non rendre public sur votre profil. Le géant californien doit se mettre en conformité avec le nouveau règlement européen pour les données personnelles qui exige des entreprises plus de transparence sur le consentement des internautes. Alors qu'est-ce qui va changer concrètement? Les explications de Philippe Randet.
En haut de son fil d'actualité, chaque usager sera invité à choisir s'il souhaite partager ses opinions politiques, religieuses ou sa situation amoureuse. Une mise en conformité, mais pas une énorme évolution. C'est en tout cas l'avis de Fabrice Epelboin, spécialiste de cybersécurité.
Concrètement, plutôt que d'avoir à accepter des conditions générales d'utilisation qui sont non seulement illisibles, mais que personne ne lit, il faut être honnête, les écrans explicitant l'usage qui va être fait des données personnelles vont être plus clairs, explicites quant à l'utilisation qui sera faite de leurs données et la façon dont ça sera fait. Et du coup, les utilisateurs vont peut-être comprendre qu'il est plus sain de ne pas tout partager sur Facebook et qu'on partage des choses, de paramétrer finement avec qui et comment on les partage.
Quant à savoir si, malgré ces nouveaux paramètres de confidentialité, Facebook va continuer d'exiger de ses utilisateurs qu'ils acceptent les publicités...
Ah bien sûr, Facebook va continuer. Le modèle économique de Facebook est basé sur l'obtention des données personnelles des utilisateurs. Et ces méthodes de ciblage sont de plus en plus précises. Ce que Cambridge Analytica a révélé, c'est qu'on était en mesure aujourd'hui de cibler la psychologie des individus et d'adapter un message en fonction de données psychologiques propres à chaque individu de façon à ce qu'ils aient un maximum d'impact.
Et lors d'une conférence de presse du groupe aux États-Unis, le responsable adjoint à la sécurité l'a répété, Facebook ne renoncera pas à la publicité ciblée.
Philippe Randet, Facebook qui taille des croupières aux régies publicitaires des médias traditionnels. Résultat, le groupe TF1 a suggéré hier aux députés d'autoriser la première chaîne à diffuser une 3e page de pub pendant les films pour faire face à ces baisses de recettes publicitaires.
8h08, de nouvelles révélations dans l'affaire Tariq Ramadan.
Sa sclérose en plaques a été diagnostiquée par des experts, plus de doutes là-dessus. Les experts qui pour autant estiment que le prédicateur accusé de viol peut rester en prison à condition toutefois de bénéficier de soins adéquats. Par ailleurs, un nouvel élément pourrait obliger ses avocats à changer de défense, une robe potentiellement tachée de sperme, une robe gardée par l'une des plaignantes. Depuis 5 ans, des expertises sont en cours. On revient maintenant sur une affaire terroriste vieille de 3 ans, le projet d'attentat de Villejuif. C'était le 19 avril 2015. Le principal suspect aujourd'hui sous les verrous, Sid Ahmed Glam, est soupçonné d'avoir tué une femme ce jour-là et d'avoir préparé une attaque contre une église de Villejuif. Cet étudiant algérien nie les faits, mais une nouvelle expertise contredit sa version. Charlotte Piret.
Devant le magistrat instructeur et malgré les traces de son ADN retrouvées sur la scène ou l'arme du crime, Sid Ahmed Glam nie avoir tué Aurélie Châtelain. Il explique aussi s'être auto-saboté en quelque sorte, c'est-à-dire s'être lui-même tiré une balle dans la jambe pour ne pas mener à bout l'attentat prévu ce jour-là. Une attaque contre une église avec beaucoup de monde selon les ordres de ses commanditaires en Syrie et pour laquelle il disposait entre autres de 4 kalachnikovs retrouvés dans sa voiture. Maître Antoine Cazubolo-Ferro est l'avocat de la famille d'Aurélie Châtelain.
Il parle pour ne rien dire. Il dit même qu'il est prêt à collaborer. Il dit même qu'il est un repenti. Il dit même que c'est finalement en changeant d'avis qu'il a épargné la vie de beaucoup de gens. Et que donc, même à ce titre-là, c'est lui-même une victime et ça, il devait être considéré comme un héros.
Mais cette version ne tient pas vraiment. C'est la conclusion de 3 experts selon lesquels c'est vraisemblablement en voulant ranger son arme dans la ceinture de son pantalon que Sid Ahmed Glam s'est blessé. Pas vraiment un tir volontaire donc, pas vraiment l'acte d'un repenti non plus. D'autant que même en prison, question si Damed Glam aurait conservé des liens avec des islamistes radicaux.
Charlotte Pierret du service police-justice de France Inter. Retour au calme dans le quartier du Mirail à Toulouse, secoué pendant 3 nuits par des échauffourées. Un des émeutiers, âgé de 18 ans, a été condamné hier à 6 mois de prison, dont 3 avec sursis.
Direction le Palais Bourbon à présent avec un président de l'Assemblée nationale mal à l'aise.
Oui, François de Rugy a bien du mal à défendre la réforme des institutions voulue par l'exécutif. Une réforme qui prévoit notamment de supprimer un tiers des parlementaires. Au Sénat, le président Gérard Larcher, lui, ne cache pas sa colère, mais c'est plus compliqué pour François de Rugy, pro-Macron convaincu. Le président du Perchoir demande quelques aménagements de texte, mais du bout des lèvres, Karine Bécard.
L'Assemblée nationale en France va-t-elle finir par devenir une simple chambre d'enregistrement ? Son président, François de Rugy, évidemment s'en défend, sauf que dans la réforme des institutions que prépare le gouvernement, les pouvoirs du Parlement apparaissent affaiblis, ce que reconnaît François de Rugy. Mais le président de l'Assemblée, contrairement au président du Sénat, n'a pas l'air décidé de vouloir frontalement s'y opposer.
C'est le délai de dépôt des amendements. Aujourd'hui, il y a des délais pour les députés, il n'y en a pas pour le gouvernement. Le temps de parole, il est limité pour les députés, il est encadré, il est illimité pour le gouvernement. Voilà des choses concrètes qui devront être faites pour avoir le même mouvement parallèle. Et c'était en plus dans la droite ligne de ce que le président de la République a dit le 3 juillet dernier.
Le problème, c'est que toutes ces propositions, Emmanuel Macron, pour l'instant, ne les a pas écrites dans sa réforme des institutions. François de Rugy va-t-il parvenir à les réintégrer ? En fait, le président de l'Assemblée est assez coincé parce que cet ancien écologiste, rallié à la majorité, doit beaucoup au chef de l'État. Résultat, quelques députés de La République En Marche lorgnent déjà sur le sujet, sur la bataille qu'il va falloir mener et qui pourrait leur permettre de se faire repérer.
Karine Bécard du service politique a noté encore sur l'agenda politique la visite éclair d'Emmanuel Macron aujourd'hui en Allemagne. Pas sûr qu'il trouve beaucoup de réconfort auprès d'Angela Merkel. Après les sifflets d'hier dans les rues de Saint-Dié-des-Vosges, le chef de l'État va tenter de relancer notamment son idée de budget de la zone euro. Mais la coalition de la chancelière allemande n'y est pas du tout favorable.
Un combat légèrement déséquilibré en finale de la Coupe de France.
Oui, de quasi-amateurs face aux professionnels les plus chers du monde, les Herbiers face au PSG. Après la victoire des Parisiens sur Caen hier soir à 3-1, ce sera donc l'affiche de la finale de la Coupe de France le 9 mai prochain au Stade de France. Pas une affiche de gala, mais l'occasion de faire une belle fête, Guillaume Batin.
Les Herbiers, club de 3e division aux 2 millions d'euros de budget, face au meilleur club de Ligue 1 des 5 dernières années, aux moyens financiers 300 fois supérieurs. Ce sera de toute façon une belle fête pour Adrien Rabiot, le milieu de terrain parisien.
Pour eux et puis pour nous aussi, parce que nous on joue chez nous, on a l'occasion de garder notre titre, j'espère qu'on le fera bien, et puis eux ils sont arrivés jusqu'ici, ils ont beaucoup de mérite, je pense que ça va donner un très bon match avec leurs armes, avec les nôtres. Faudra être concentré, on a vu qu'il peut se passer beaucoup de choses dans cette compétition-là, donc faudra être surtout concentré.
Vous savez où c'est les Herbiers ?
Ouais, c'est en Vendée.
Le Belge Thomas Meunier a un peu plus de mal à situer les Herbiers sur la carte de France, mais il se réjouit d'affronter une 3e division.
C'est un invité surprise que personne n'attend, et voilà, ils vont jouer le couteau entre les dents et ils vont se donner un 1000%. Ce sera à nous d'être prudents, mais ça promet. C'est quand même superbe, je trouve. C'est un peu la magie de la compétition et je me réjouis d'être au Stade de France pour les affronter.
Les joueurs du Paris Saint-Germain ont 3 semaines pour regarder les Herbiers en vidéo. Pas besoin pour les joueurs vendéens habitués à voir les stars du PSG à la télé. À Caen, Guillaume Batin, France Inter.
Lancement réussi pour le nouveau télescope de la NASA surnommé TESS. Il a été conçu pour rechercher des planètes d'une taille comparable à celle de la Terre et susceptible d'abriter la vie. L'engin de la taille d'une machine à laver a été lancé cette nuit depuis Cap Canaveral en Floride. On termine avec une exposition passionnante sur l'Iran d'avant les Mollahs. Une exposition très exotique au Louvre-Lens sur l'Iran du 19e siècle. Au temps des souverains Qadjar, période mal connue où les Perses ne cachaient pas leur attirance pour l'Occident. Isabelle Pasquier.
Étonnant dans cette exposition qui nous emmène dans un palais Qadjar, on découvre que le sultan faisait porter des mini-jupes aux femmes de son harem après avoir découvert les tutus à l'inauguration de l'Opéra de Paris. Car ce 19e siècle iranien, c'est celui d'une transition vers la modernité occidentale. Christian Lacroix a une véritable fascination pour cette culture Qadjar et ses flamboyances artistiques.
Une période comme celle-là qui a déployé tout son pouvoir à travers
des tissus flamboyants, des broderies extraordinaires, des bijoux somptueux ne pouvaient que m'intéresser. Et, alors, je ne peux pas dire que j'ai fait des collections complètement inspirées à 100% de l'art des Qadjars, mais ces silhouettes, bien sûr, m'ont marqué beaucoup. Il y a une opulence, une luxuriance, il y a un sens de la couleur aussi. Oui, on est devant des tuniques d'hommes. Alors, c'est ce qu'on appelle en Provence, on appelle ça du boutiste. C'est matelassé, mais avec de tout petits motifs minutieux. Ce sont des cachemires, ce sont des indiennes, et là, j'ai l'impression de vraiment être à la maison. Moi, je rêverais, moi, j'adorerais porter ça.
L'Empire des Roses s'inscrit dans ce rapprochement entre la France et l'Iran à travers des expositions, celle du Louvre à Téhéran et cet Empire des Roses au Louvre-Lens, des roses qui ont aussi un parfum de diplomatie culturelle.
L'exposition L'Empire des Roses, c'est jusqu'au 28 juillet au Louvre-Lens. Merci, c'était le journal de Sébastien Logénie. Un mot, et même un peu plus, puisque nous venons de recevoir ce matin les audiences Médiamétrie pour les mois de janvier et mars. Audience radio, bien sûr, c'est une très belle rentrée 2018 pour France Inter. Vous êtes près de 6 200 000 auditeurs à écouter Inter tous les jours.
Quant au 7-9, eh bien vous êtes près de 4 millions à vous réveiller avec nous tous les matins. La matinale de France Inter est la première matinale de France sur tous les indicateurs. C'est à ce moment-là qu'on embrasse Nicolas Demorand.
Exactement.
Qui est en vacances mais qui est content. Quant à votre journal, Marc, le journal de 8 heures, il reste le plus écouté de France
et
on va se féliciter
aussi d'un autre chiffre, 33 millions de podcasts pour le mois de mars. Vous êtes de plus en plus nombreux à réécouter les émissions, les chroniques, les reportages de France Inter. Bravo
et merci.
Et à nous d'être à la hauteur de ce chiffre ce matin des sondages Médiamétrie. Merci à vous.